Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Victor Hugo alors qu'il s'apprêtait à partir en exil, un exil de 19 ans à Jersey et à Guernesey. Il ne part pas seul, il part bien sûr avec son épouse, sa famille, mais aussi Juliette Drouet qui va s'installer à quelques encablures de sa maison. Le ménage à trois continue de plus belle. À Guernesey, la cohabitation sera difficile pour Adèle qui va avoir sa rivale sous le nez en quasi-permanence puisque Juliette s'installe dans une petite maison à portée de regard d'Hauteville House où est installée la famille Hugo. Et Victor Hugo lui rendra visite tous les jours. Mais déjà à Jersey, et dès leur arrivée à Jersey, à la fois pour passer le temps et s'approprier sur le papier un mari qu'elle doit partager avec la terre entière dans la vraie vie, Adèle décide de le statufier vivant en écrivant l'histoire de sa vie. Cela donnera Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Alain Decaux a qualifié de supercherie parfaite ce travail littéraire où Hugo, contribuant à sa propre légende, a ajouté ce que bon lui semblait et dont l'essentiel a été écrit par Auguste Vacry, pas du tout par Adèle Hugo, épouse de Victor. Dans ce récit qui s'arrête en 1841, Adèle et Vacry censurent tout ce qui pourrait ternir l'auréole du proscrit de Guernesey. De plus, il n'est question dans ce livre que de la vie publique d'Hugo. Sur la vie privée, Adèle est muette. Jamais le nom de Juliette Drouet, le grand amour d'Hugo, son ombre depuis 30 ans, n'est même mentionné une seule fois dans le livre. Au point d'ailleurs qu'Adèle se paie le luxe d'en dédicacer un exemplaire à Juliette. À Madame Drouet, écrit dans l'exil, donné par l'exil. Adèle V. HHH 1863. Adèle Victor Hugo et HH, c'est Hauteville House. Au moment de la publication du livre, Adèle est à Paris. Car elle étouffe à Hauteville House. Sous le moindre prétexte, elle fait donc ses bagages, elle part sur le continent. Elle encourage ses fils à faire de même pour fuir l'ambiance orageuse qui règne parfois chez eux. Ces navettes entre Paris, Bruxelles, Guernesey sont de plus en plus fréquentes et ses séjours sur le continent de plus en plus longs. Bien sûr, Hugo la rejoint de temps en temps à Bruxelles, mais il est alors toujours flanqué de sa Juliette, ce qu'Adèle n'apprécie guère. Madame Hugo, c'est elle. À Hauteville House, Victor Hugo doit aussi composer avec sa fille Adèle, éblouissante Dédée, âgée de 20 ans, petite dernière de la famille dont le mal de vivre pèse sur l'atmosphère familiale. Pour occuper ses journées solitaires, elle joue frénétiquement du piano, met les poèmes de son père en musique, s'adonne à la peinture, où elle fait également merveille, et rédige un journal intime, un précieux témoignage dont près de 6000 pages nous ont été conservées. Alors qu'elle excelle dans tous les domaines, sa vie lui semble si monotone qu'elle sombre doucement dans la dépression. Quelques années avant l'exil, elle s'est follement éprise d'Auguste Vacry, son beau-frère de 10 ans plus âgé qu'elle. Il a été son premier amant. Mais l'ombre de son père, qu'elle surnomme le Périssime, est venue contrarier ses amours. Elle s'est convaincue qu'elle ne peut aimer qu'un génie. Elle s'est donc enflammée pour le peintre Delacroix, puis pour le sculpteur Clessinger, deux grands artistes bien plus âgés qu'elle. Un échec. Et depuis, plus rien. Doit-elle renoncer à l'amour? Elle écrit. Être Mademoiselle Dante ou Mademoiselle Shakespeare, n'est-ce pas là un idéal supérieur à tout mariage? Il faut dire qu'à Guernesey, mis à part Auguste Vacry, qu'elle appelle le fidélissime, il n'y a aucun jeune dans son entourage et son père lui interdit formellement de voyager. On le sait, il a déjà perdu Didine, Léopoldine, sa fille aînée en 1843, nous l'avons évoqué. Et donc il surveille sa Dédée, sa seconde fille, la seule qui lui reste comme le lait sur le feu. Il sait qu'elle est très fragile nerveusement. Quand il la regarde, si frêle, le regard fixe, il ne peut s'empêcher de penser à son frère aîné Eugène, qui, ayant perdu la raison, a été enfermé des années durant, jusqu'à sa mort en 1837. En 1854, Adèle a un coup de foudre pour un officier anglais venu participer à une séance de spiritisme organisée par ses parents. Il se nomme Albert Pinson. Adèle et lui se voient plusieurs fois, batifoles. Hélas, cette liaison va faire sombrer la jeune femme dans une véritable folie amoureuse que la médecine moderne qualifie de nos jours d'érotomanie ou symptôme de Clérambault. Cette affection se définit comme la conviction délirante d'être aimé, alors que pour Pinson, l'officier anglais, il ne s'agit que d'une amourette. Adèle, elle, est persuadée qu'il l'aime aussi et qu'il veut l'épouser. Le 6 décembre 1856, elle fait une terrible crise de nerfs, divague pendant 4 jours et ne quitte plus sa chambre. Elle vient de basculer pour de bon du monde réel au monde du délire. En 1863, quand Pinson est muté au Canada, elle quitte en cachette Guernesey pour aller le rejoindre. Alors qu'il les conduit vertement, elle ne cesse de le harceler. Non sans un certain cynisme, le jeune homme va lui emprunter de l'argent. Quand Adèle écrit à ses parents qu'elle vient de l'épouser, il la croit sur parole et publie un faire-part dans le journal. Entre-temps, Pinson est muté aux Antilles, où lorsqu'Adèle le rejoint, il ne lui prête pas davantage attention. Mais son état à elle, son état mental, se dégrade encore. Elle erre, hallucinée, d'une plage à l'autre, sous un soleil brûlant, vêtue d'un manteau d'hiver. Finalement, rapatriée en France par sa famille, elle est immédiatement internée. Certes, ses conditions de détention sont confortables, son père y a pourvu, en lui laissant 2 millions de francs par testament. Mais elle va passer plus de 40 ans dans les murs d'un asile. C'est une véritable tragédie. Adèle mourra le 21 avril 1915, en pleine guerre de 14, de sorte que sa disparition passera totalement inaperçue. Elle était pourtant l'unique survivante des enfants Hugo et le seul à avoir franchi le cap du XXe siècle. On dit que ses dernières paroles furent « Ah, que mon nom est bien lourd à porter !» À côté du Victor Hugo père de famille, le Victor Hugo sensuel n'est jamais bien loin. Que ce soit à Guernesey ou après son retour à Paris en 1870, il parvient toujours à dénicher des jeunes femmes capables de combler son appétit sexuel. Avec l'âge, comme avant lui, un Henri IV, il ne cessera jamais de lutiner des demoiselles, comment le sait-on ? Grâce au petit carnet noir où il consigne tous ses exploits sexuels. On y trouve les noms, initiales ou pseudonymes des femmes par dizaines, soubrettes, prostituées, admiratrices, femmes du monde qu'il a tripotées, possédées, pour ne pas dire culbutées. Hugo va même jusqu'à préciser les dates, les lieux, ce qu'il a fait avec elle, combien il a payé pour celles dont les services sont tarifés. Ces carnets noirs, oh, c'était de la nitroglycérine. Adèle ou Juliette pouvaient à tout moment tomber dessus. Voilà pourquoi leur contenu est crypté en latin, espagnol ou espéranto. Le 2 novembre 1875, Hugo a donc alors 73 ans. Il écrit
SB, non sera el chicoero.
Ce que l'on peut traduire par Sarah Bernard, l'enfant ne sera pas fait. Hugo s'est donc apparemment contenté de lutiner la comédienne, qui après tout n'a jamais que 40 ans de moins que lui. Pour être cochon, on n'en demeure pas moins poète. Aussi Hugo utilise-t-il des métaphores pour parler du corps féminin.
9 janvier 1868, Anne. Nouvelle vue de Suisse.
Le pays montagneux, par exemple, désigne les saints. Et quand il écrit
« Avoir trouvé l'ermite de la chaussée d'Antin »,
c'est que la jeune fille était encore innocente avant d'avoir affaire à lui. 19 avril 1868.
Revu la forêt de Rietclanche, suis allé jusqu'à la cave. C'est fatigant de faire l'amour 3 fois par jour.
Se plaint notre fringante octogénaire, sans doute. Mais comment résister à Albertine Seurin, fraîche actrice de 25 ans, et à Judith, fille de Théophile Gautier, que notre vieux satire honore en 1883 à l'âge canonique de 81 ans. Sa dernière conquête, Blanche Lanvin, alias Alba, alias Sartorius. Son dernier rapport avec elle est noté dans le carnet le 5 avril 1885, Hugo à 83 ans. Nous sommes alors à un mois avant sa mort. Quelle santé!
Tant que l'homme peut, tant que la femme veut,
écrivait-il. Quand on parcourt ses carnets, on ne peut s'empêcher de penser qu'Hugo aurait aussi pu faire sienne cette phrase de Talleyrand.
L'homme est une intelligence contrariée par des organes.
Entre Adèle et Juliette, le temps va finir par apaiser les choses. Après tout, toutes deux sont maintenant de vieilles dames, ayant chacune perdu une fille. Adèle Fouché meurt le 27 août 1868 à Bruxelles, dans les bras de son mari. Sur la photo d'elle qu'Hugo dépose sur son lit de mort, il écrit
« Adieu, chère morte pardonnée ».
On ne peut s'empêcher de penser qu'il ne manque pas d'air d'évoquer en de telles circonstances l'adultère éclair dont sa défunte épouse se rendit coupable. C'eût plutôt été à lui de demander pardon. Le fit-il ? À en juger par le texte qu'il choisit pour la pierre tombale de sa femme, l'autoflagellation n'était pas sa tasse de thé.
Adèle, femme de Victor Hugo.
La voilà réduite à la seule femme de Victor Hugo. Pas facile d'avoir été l'épouse d'un génie égoïste. Rappelons que la devise de l'écrivain était
« Ego Hugo ».
Après leur retour à Paris en 1870, Juliette et Victor Hugo vivent enfin sous le même toit. Pendant 13 ans, Madame Hugo, ce sera désormais Juliette. 13 années où elle aura son vieux Toto tout à elle. Le 11 mai 1883, Juliette Drouet meurt dans sa 78e année. Victor Hugo n'est plus qu'un corps sans âme, écrit André Castelot. Il n'a même pas la force de suivre le convoi qui conduisait sa chère Juliette jusqu'au cimetière de Saint-Mandé. Terrassé par le chagrin, il n'écrira plus une ligne jusqu'à sa mort, qui survient le 22 mai 1885, 2 ans quasiment, jour pour jour, après la disparition de Juliette. Sur sa tombe, il fait écrire ces vers.
« Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, dis-toi si dans ton cœur ma mémoire est fixée, le monde a sa pensée, moi, j'avais son amour. »
Mais ce n'est pas sur ces vers magnifiques que nous fermerons ce chapitre consacré à Hugo, mais sur quelques lignes écrites par Adèle Hugo. Certes, elle en avait fait voir de toutes les couleurs à Juliette, mais que n'avait-elle pas elle-même enduré ? Le génie de Victor Hugo fut aussi de savoir choisir deux femmes admirables pour l'accompagner fidèlement sa vie durant et lui permettre de créer l'œuvre monumentale qui fit de lui l'un des plus grands noms de l'histoire de la littérature. Adèle et Juliette ont eu leur part dans cette épopée littéraire. Juliette avait fini par faire partie du clan Hugo. Le temps ayant pansé les blessures, Adèle sut faire preuve vis-à-vis d'elle d'une suprême élégance et d'une grandeur d'âme qui évoque plus près de nous celle qui présida entre les deux familles de François Mitterrand lors des obsèques de ce dernier. Alors pour finir, voici les mots qu'adressa Adèle Hugo à ses enfants. « Vous agiriez, mes chers enfants, contre mon désir, si après avoir pris connaissance des papiers qui accompagneront ce mot, vous en abusiez contre Madame Drouet. Je veux au contraire que tant qu'elle vivra, elle soit l'objet de vos égards et que vous respectiez ceux de votre père pour elle. Il est juste, dans nos larges idées, que Madame Drouet ait dans la vie douce que votre père nous a faite, sa part de bonheur. » Dans toute cette affaire, on peut le dire, le grand homme, ce fut elle. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous souhaitez aller plus loin, naturellement, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.